revue de presse internationale.
7h24 sur France Culture. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, la lecture de la presse internationale, difficile de savoir si le climat nous est ou non véritablement favorable.
Il y a quelque temps, Barack Obama l'avouait lors d'une interview télévisée, il avait éprouvé une angoisse terrible lorsque sa fille, âgée de 4 ans, lui avait un jour déclaré « Daddy, j'ai de la peine à respirer ». Malia venait en effet d'avoir une crise d'asthme. C'est dire si le climat tient à cœur aux démocrates, écrit avec malice ce matin Le Temps de Genève, le journal qui rappelle également qu'il y a peu la demi-sœur de Barack Obama confiait dans ses colonnes « Je ne suis pas étonné que mon frère se sente concerné par le changement climatique, c'est à Hawaï qu'il a développé sa sensibilité pour l'environnement, une connexion toute particulière à la nature » et de préciser encore « Avec notre mère, nous participions à des opérations de nettoyage des rivières ». Quoi qu'il en soit, depuis le début de la semaine, le président Obama est donc en Alaska pour un voyage que la Maison-Blanche qualifie de coup de projecteur sur le changement climatique, l'une des plus grandes menaces auxquelles nous devons faire face. Reste qu'au-delà des convictions personnelles du chef de la Maison-Blanche, ce voyage est aussi et surtout une formidable opération médiatique, nuance toujours le quotidien. Non seulement Obama alimente lui-même le compte Instagram de la Maison-Blanche et répand à l'envi son message sur les réseaux sociaux, mais il doit également participer à une émission de télé-réalité animée par un aventurier qui sera diffusée cet automne sur la chaîne NBC. Voilà donc comment Barack Obama entend charpenter son bilan, ironise encore le journal, et surtout rattraper le temps perdu, car il faut bien l'admettre, son action en la matière a été plutôt modeste au cours de son premier mandat, pis encore, puisque selon le magazine Slate, cette fois-ci, Obama ne serait rien de moins qu'un hypocrite du climat. Et son voyage d'ailleurs le prouve. Pourquoi ? Parce que 2 semaines à peine avant de s'envoler pour l'Alaska, l'administration américaine a autorisé la compagnie pétrolière Shell à forer au large de l'Alaska dans une région qui regorgerait de pétrole susceptible de générer jusqu'à 193 milliards de dollars de revenus. En d'autres termes, pas vraiment le genre de décision qu'on attendrait de quelqu'un qui se targue de diriger par l'exemple. Alors pour être tout à fait exact, les baux d'exploitation permettant à Shell de forer l'Arctique ont été attribués sous l'administration de son prédécesseur George Bush. Et le président actuel n'avait que peu de moyens en réalité de les bloquer. Pour autant, comme le fait remarquer Think Progress, Obama aurait pu tout simplement les révoquer ou bien initier un processus visant à déclarer la région zone marine protégée pour que de tels contrats soient impossibles à l'avenir. 2 actions qui n'auraient certes pas été faciles, mais qui auraient permis à tout le moins d'envoyer un message fort à l'industrie. En clair, dorénavant, la lutte contre le changement climatique passe avant l'exploration énergétique. Seulement voilà, quand il est question de pétrole, Obama serait victime d'un dédoublement de personnalité, écrit le journal Politico, à la fois désireux d'agir vraiment dans le domaine climatique et dans le même temps de l'autre incapable d'abandonner les leviers que procure à l'Amérique la production d'or noir dans une phase de transition énergétique. Et le magazine Slate à nouveau d'en conclure pour beaucoup d'écologistes qu'Obama permette à Shell de forer l'Arctique est la cerise d'un gâteau fourré d'hypocrisie.
Thomas, direction à présent le Guatemala où le gâteau du président serait lui carrément fourré de corruption.
Oui, voilà plusieurs mois maintenant que le pays le plus peuplé d'Amérique centrale était en ébullition depuis que son président, Otto Pérez Molina, a été signalé à la tête d'un vaste réseau de corruption. Une accusation confirmée officiellement vendredi dernier. Le chef de l'État est accusé d'avoir profité de ses prérogatives pour monter une structure mafieuse qui aurait détourné jusqu'à 50% des impôts perçus par l'État sur les importations. Eh bien hier, alors qu'il pleuvait sur la capitale, des centaines d'habitants enthousiastes ont accouru spontanément devant le Parlement pour célébrer la levée historique de l'immunité du président, peut-on lire ce matin dans les colonnes du New York Times. Et de fait, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un président perd sa protection judiciaire, ouvrant ainsi la voie à des poursuites. Une décision ô combien symbolique, écrit toujours le quotidien américain, dans un pays où l'impunité pour les puissants était la règle, dans un système lui-même alimenté par la corruption.
Et puis, la pression populaire monte également en Malaisie contre le Premier ministre, cette fois-ci soupçonné de pratiques frauduleuses.
Et le chef du gouvernement est accusé par ses adversaires de malversation, une somme de 552 millions d'euros ayant été versée sur son compte. Évidemment, l'intéressé nie les accusations de corruption, mais son gouvernement a depuis admis que des donations politiques avaient bien été effectuées sur son compte. La somme proviendrait d'un généreux donateur d'une monarchie pétrolière non identifiée. Désormais, et même s'il continue de tenir fermement les rênes de son parti, le Premier ministre paraît de plus en plus fragilisé. Plusieurs membres de son gouvernement ou de sa formation semblent d'ailleurs prêts à le lâcher. Puis surtout, un sondage d'opinion effectué par le site d'information en ligne Malaysia Insider montre que 62% des personnes interrogées se déclarent à présent en faveur d'un changement de gouvernement. Reste qu'on le sait, Guillaume, le changement, ça n'est pas nécessairement pour maintenant. Les fruits de l'été ne tiennent pas toujours les promesses des fleurs du printemps. Et pour la prochaine saison, il faudra encore choisir votre camp, prévient USA Today, puisque si traditionnellement les astronomes considèrent que l'automne ne commence que dans 3 semaines, pour les météorologistes, en revanche, l'été, lui, est déjà bel et bien fini.
Merci Thomas Cluzel. Il est 7h29 sur France Culture.